France Info.
Bonjour Arnaud Ducret.
Bonjour.
C'est grâce à votre rôle de Gabriel, hein, Digami, en couple avec Isabelle, jouée par Alix Poisson dans la série humoristique Parents mode d'emploi, diffusée sur France 2 puis sur France 3, que le public vous a découvert. À la base, vous étiez chanteur de gospel puis humoriste dans l'émission Morning Live. Oui, ça remonte, hein. Depuis vos débuts, ce qui est certain, c'est que vous aimez réellement toucher à tout, avec une affection particulière quand même pour la scène et le théâtre. À partir du 22 janvier 2026, vous serez à l'affiche de la comédie culte de Sébastien Thierry, Cochon d'Inde, mise en scène par Julien Boisselier au Théâtre des Nouveautés, donc à Paris. Vous incarnez Alain Kraft. Alors c'est un bourgeois qui se voit avaler sa carte bancaire en voulant faire un retrait. Il se retrouve dans son agence bancaire et à partir de là, ça devient un cauchemar très vite parce que sa banque, il le découvre, a été rachetée par l'Inde.
Le groupe indien.
Et donc, il est sujet à partir de là aux lois indiennes. On se rend compte qu'il a changé de caste, il n'a pas le droit de le faire. J'ai l'impression que le théâtre vous permet ça, d'endosser des rôles improbables, ubuesques.
Bah ouais, et puis je suis bien accompagné là avec Emmanuel Bougerolle, Maxime Dabovy, Frédéric Cantrel, qui sont formidables. Mais quand j'ai démarré la pièce, j'ai trouvé ça anxiogène au début, hein, un peu. Je me suis dit, ah bon, il reste enfermé dans une banque? Ouais, moi, les finances, c'est pas bon, moi, je suis un artiste. Et en fait, on va découvrir pourquoi il est enfermé à la fin, évidemment, on va pas spoiler, mais c'est marrant, tout d'un coup, ça devient totalement absurde, mais, vous savez, c'est comme ces moments où, en fait, tu te dis, mais, quand quelqu'un te parle dans la rue, ou t'agresse, par exemple, dans le métro, une fois que c'est fini, tu dis, putain, j'aurais dû dire ça. Bon, bah là, lui, on va lui dire, tu peux plus sortir? Vous pouvez plus sortir, monsieur, parce qu'en fait, vous avez changé de caste et vous gagnez beaucoup trop d'argent. Maintenant, c'est Bank of India qui tient, c'est un groupe indien qui tient, et vous n'avez pas le droit de gagner autant. Et au lieu de se dire, bon, attendez, stop, je veux sortir, son téléphone ne capte plus, et en fait, il est bloqué dans cette banque, et il doit refaire des recherches sur lui, sur sa vie, et savoir s'il doit pas donner un peu d'argent aux autres, parce que il gagne trop de sous.
Bon, il y a les parents qui vont rentrer en ligne de compte, je vais pas tout raconter.
Non, mais la maman arrive aussi, ouais.
Maman arrive à un moment donné, enfin bon, ça devient juste totalement improbable, mais du début jusqu'à la fin, c'est complètement improbable. On parle de caste, effectivement, vous faites partie, vous l'apprenez, d'une caste des commerçants, vos parents, eux, font partie de la caste des ouvriers, des manuels, et donc, effectivement, vous êtes autoproclamé avoir évolué, et ça ne convient pas du tout à la loi indienne. Ce qu'on comprend d'ailleurs, c'est à quel point par moment on a beau se parler, on n'arrive pas à se comprendre. On n'arrive pas à communiquer.
Ouais, et puis là, il y a une raison pour laquelle ils veulent pas comprendre ce que je dis, en fait. On le découvre à la fin une fois de plus, mais c'est surtout, en plus, je dis, mais je l'ai pas volé, moi, j'ai travaillé pour ça, en fait. J'ai bossé pour en arriver là, donc j'ai rien volé du tout, en fait. Pourquoi je devrais donner l'argent aux autres? Bah, parce que quand même, là, vous gagnez bien, là. Bah oui, mais bon, mais attendez, et voilà. Et ça part là-dessus, c'est des reproches en permanence sur ma façon de vivre. Et ce qui me faisait rire, à la base aussi, c'est que c'est quand même par le prisme des finances. C'est quand même dans une banque où on te dit qu'il se fait, mais un pognon, logiquement quand même dingue, ils sont là pour se faire le maximum d'argent. Quand on voit tous les frais qu'on a, des fois tu regardes tes comptes, tu te dis, c'est quoi ça, 5 euros tous les mois, c'est quoi ce truc de gestion de je ne sais quoi? Et donc c'est eux qui me disent, en fait, vous gagnez bien votre vie, il va falloir donner aux autres. Et là tu te dis, mais il y a un problème là, on marche sur la tête, quoi. Donc c'est aussi le sujet de cette pièce, quoi.
Les rapports humains entre les hommes et les femmes sont également abordés, hein, dans cette pièce.
Ouais, mais elle a été écrite par Sébastien Thierry, elle a été jouée en 2005 par Patrick Chenet. Et en fait, entre 2005 et 2025, il se passe quand même beaucoup de temps, hein, il y a 20 ans, et là tu te dis, en fait elle est toujours hyper d'actualité, quoi, sur le rapport homme-femme, qui est formidable. Il y a cette scène est très très drôle, là on est en répétition, c'était fou rire sur fou rire avec cette scène, parce que j'avais beaucoup de mal à me tenir avec une Emmanuel Bougerolle en face de moi qui est à mourir de rire. En plus j'ai la chance, pardonnez-moi, mais ils le savent, j'ai mes deux acolytes, entre autres, qui sont le plus souvent sur scène avec moi, n'ont pas du tout le même physique que moi, c'est-à-dire que moi je fais 1m90, bon voilà, ils sont beaucoup plus petits, donc ce rapport physique est très drôle aussi sur la scène.
Ce qui est assez étonnant, c'est que plus on vous voit avancer dans le temps, plus on comprend que vous prenez de plus en plus de plaisir à jouer, à vous mettre limite par moment en danger. D'ailleurs cette pièce, Cochon d'Inde, elle est pas simple du tout.
Elle est pas simple, non. Bah en fait, moi, ce que j'aime, c'est jouer, quoi. Moi, j'adore la scène, donc j'avais très envie de faire du théâtre. Je n'ai pas fait réellement professionnellement. J'ai fait une comédie musicale qui s'appelait Spamelot des Monty Python avec Pef. Et ça a été mon expérience scénique avec toute une troupe. Mais moi, j'ai toujours aimé échanger avec les gens sur scène. Et donc, le théâtre, on m'avait proposé plusieurs choses. Et là, cette pièce, vraiment, je me suis dit, ouais, celle-ci, elle me plaît beaucoup et j'ai envie de la jouer. Et donc, j'ai envie de m'accomplir. Et ça passe par ça, quoi. Artistiquement, ça passe également par la scène, le théâtre.
Et par la voix. C'est pas hasard si vous avez commencé par le gospel. Enfin, en tout cas, quand on regarde votre pédigré, on se rend compte que la voix, elle joue un rôle très, très important dans votre façon de vous exprimer, d'incarner le rôle aussi.
C'est pas anodin
que vous ayez fait du gospel.
Non, j'ai fait gospel, comédie musicale aussi, avant le gospel d'ailleurs. Et en fait, ça fait partie du métier, la voix, quoi. Bon, déjà, moi, j'adore la radio. J'adore écouter la radio parce que j'adore écouter les voix. Des fois, j'entends les gens s'exprimer, j'adore. Je dis, ah, le timbre, il est trop beau, la personne et tout. Donc, j'ai toujours aimé ça, mais ça, je pense que ça fait partie vraiment de notre métier. C'est le corps, la voix, l'oreille. Et donc, oui, je trouve important. Et j'ai eu la chance de faire de la comédie musicale et du gospel, comme vous l'avez dit, plus jeune, ce qui m'a permis d'apprendre à poser ma voix, à harmoniser. Et c'est vrai que je pense que ça m'aide beaucoup maintenant.
Et à vous trouver aussi. C'est en suivant votre sœur, hein, ouais, qui faisait, elle, de la comédie musicale. Elle chantait, elle dansait, que vous avez découvert ce métier. Vous étiez totalement cancre à l'école. Vous avez compris à ce moment-là, par le biais du travail, par le biais de la scène, etc., de la rigueur aussi qu'on vous a donnée, que vous pouviez changer ça, que vous pouviez être autre chose que ce que les gens pensaient de vous.
Bah, en tout cas, ou ce que je pensais de moi, parce que peut-être que les gens ne voyaient pas un cancre, mais se disaient c'est dommage parce que j'avais un réel problème d'attention, de concentration. Même encore maintenant, ça peut arriver où on me parle et très vite, bon, pas entre nous, vous inquiétez pas. Mais quand je suis dans le métier, je suis très concentré, je connais mes textes par cœur, évidemment, c'est la base, hein. C'est pas un exploit, mais je connais mes textes, il y en a qui le font pas, mais je connais mes textes par cœur et j'ai une vraie conscience de la scène, des gens qui m'entourent et quand on joue, quoi, je fais attention aux autres, je mets en valeur les autres, je crois, je fais au mieux, mais en tout cas, oui, ça a été tout d'un coup le jour et la nuit, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu en plus sur scène en jouant au spectacle de fin d'année de mon collège, ça c'était une révélation parce que c'est vrai que je n'existe pas là, j'étais vraiment un cancre et je savais pas où me placer et tout d'un coup, je monte sur scène, je joue et je vois les profs me regarder et se marrer, rire. Et tout d'un coup, je me dis, wow, c'est puissant. Puis je me disais, tout d'un coup, les gens m'estimaient, quoi. Et ça a évidemment changé ma vie d'enfant, d'ado et d'homme que je suis maintenant, quoi.
Vous aviez effectivement besoin d'un regard comme ça, hein. Il y a eu le divorce de vos parents qui a été très, très dur. Vous avez très durement encaissé cette séparation et d'être éloigné de votre père. Mmh. Et au fil du temps, ce métier vous a permis d'ailleurs de mieux le retrouver.
Ouais, bien sûr.
Un peu plus tard.
Bien sûr. Ouais.
C'est la clé, l'humour, justement, ce qui vous a permis de mettre vos émotions un peu moins sur le devant de la scène.
Oui, en tout cas, ça m'a sûrement permis d'extérioriser des choses, ça c'est sûr, de toute façon la scène c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Donc oui, ça m'a permis, surtout ça m'a permis de tout ce que je faisais à l'école, en classe, où je me faisais punir, parce qu'on me disait arrête avec tes bruits là, arrête de faire rire, de vouloir faire rire tes camarades, bon tout d'un coup là, on m'a dit bon bah tu sais quoi, vas-y tu montes, tu les fais rire, hein. Et puis en plus tu vas être payé pour ça. Donc je me suis dit ah ouais d'accord, donc y a quand même, ça existe en fait, quoi. Donc oui, ça m'a, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre, je n'en ai aucune idée, mais des fois j'ai des angoisses comme ça, dire, oh, si ça s'arrête du jour au lendemain, qu'est-ce que je vais devenir, je vois pas ce que je pourrais faire d'autre.
C'est devenu d'ailleurs une grande histoire de famille, votre mère elle rêvait pendant un temps de faire partie du Big Bazar, de Michel Fugain. Elle vous a accompagné au tout départ,
elle m'a emmené
dans cette aventure, c'était fou.
Ah bah oui, j'étais du haut de mes 1m90, ma mère accompagnait parce que j'ai mis le métro, c'est comment, alors elle m'a accompagné au début, et puis après je me suis débrouillé tout seul assez rapidement, évidemment, mais puis elle a toujours été, comment dire, jamais ma mère m'a dit tu n'y arriveras pas, oublie, je veux dire, moi j'ai ma mère à travailler pour la CARSAT, caisse de retraite assurance maladie, mon père chez Renault, enfin personne m'a,
il était cariste, ouais,
personne n'était dans ce métier, mais ma mère avait cette fibre et elle adorait les spectacles, elle adorait regarder, on est, je suis un enfant de la télé, moi, mais toutes les émissions de Sébastien, avec Patrick Sébastien, avec les Lille Pontel, les Palmade, les tous ces gens qui étaient, Robin, tout ça, et effectivement je crois que ça m'a énormément bercé quand j'étais jeune, et surtout Dupontel, Albert Dupontel, et c'est vrai que je le dois, je pense, essentiellement à ma maman qui m'a toujours soutenu en me disant faut que tu travailles à l'école, parce que t'as vu Dupontel, il a quand même il a fait médecine et tout, voilà, et bon, ça a pas marché.
Vous êtes fait violence quand même, hein, parce que mine de rien, même si votre mère vous a accompagné au début, il y a un moment où vous avez négocié avec elle, vous lui avez dit c'est soit je vais à Paris, soit je vais mal tourner.
Ouais, parce qu'en fait j'étais arrivé à 18 ans, j'étais en première électrotechnique, je me dis mais qu'est-ce que je fais là, quoi?
Les BEP, les fameux BEP.
Les fameux, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, j'aimerais être... Alors, vous savez pourquoi? On m'a mis au BEP. En BEP, parce que, je vais vous dire pourquoi.
C'est le brevet d'études professionnelles.
Le cheminement, oui. BEP électrotechnique, parce que je voulais faire de la radio. Et comme je voulais faire de la radio, on m'avait dit, j'avais été bercé par Super Nana, une radio concurrente que voilà, Super Nana à l'époque, Radio Libre, j'adorais Super Nana. J'écoutais ça tous les soirs, ma mère me dit pourquoi t'es fatigué le matin quand tu vas à l'école, parce que j'écoutais Super Nana et les voix, j'adorais les entendre, c'était incroyable, Maître Lévy tout ça. Et en fait, j'ai dit je vais faire la radio. Alors on m'a dit alors attends, si tu veux faire la radio, va vers l'électronique. Comme ça, tu vas être sur l'étape de, tu vas pouvoir gérer l'étape de mixage, puis après tu feras peut-être animateur. Enfin, ils ne savent pas comment faire en fait. Ils savent pas ce qu'il faut faire. Donc, un jour, je voyais que j'étais en train de sombrer. J'étais vraiment en train de déprimer, c'est-à-dire que j'étais en cours et je dormais, ce qui ne m'était jamais arrivé. Parce que vous avez quand même le prof, tu le respectes. Ça m'était jamais arrivé. Et là, j'étais dans un moment où je lâchais. C'était terminé. J'avais plus envie. Je m'endormais en cours, ce qui est horrible pour le prof. Je m'excuse encore. Mais là, je suis rentré, j'ai dit, maman, soit tu me laisses aller à Paris, je vais faire le métier, je vais y arriver, crois-moi, je vais y arriver, soit je vais partir en déprime, je te le dis, ça va mal finir. Et elle m'a dit, ok. Et je me rappelle toujours, dans la cuisine d'ailleurs, elle m'a dit, ok, mais tu me promets que tu travailles. Et j'ai dit, t'inquiète pas, je vais travailler. Et j'ai travaillé, voilà.
C'est ça qui est drôle chez vous, c'est que vous aimez l'humour. Oui. Mais par contre, vous ne rigolez pas quand on vous confie un rôle. C'est vraiment, vous êtes hyper pointu sur le travail du rôle, sur l'apprentissage du texte.
Bah oui, parce que c'est...
Ça, c'est votre côté aussi sportif, hein.
Bah je sais pas, mais...
Et une rigueur.
Ouais, en tout cas, ouais, moi j'ai toujours rêvé d'être là où je suis maintenant et il faut respecter son art, quoi. Moi, mon métier, mon art me permet d'aller dans les endroits où je n'aurais jamais pensé aller. Où j'ai rencontré des gens, où je n'aurais jamais pensé rencontrer des gens, et avoir le regard parfois de personnes où on est quand même très bien traité, où on est reçu, voilà. Et c'est vrai que je me dis, c'est grâce à mon art, en fait. C'est parce que j'ai voulu ce métier, et donc il faut respecter son art. Donc la moindre des choses, quand un metteur en scène te dit qu'il a envie de travailler avec toi, c'est que bah que t'arrives et que tu saches ton texte. Pour moi, c'est la base, hein, je vous dis, mais que tu saches ton texte, que tu sois pointu. Rarement, tu me répètes deux fois les indications, parce que j'aime aller vite. Et j'aime, voilà, j'allais pas vite à l'école, mais là, rarement, tu me fais répéter deux fois les indications d'un metteur en scène, quoi. Mais c'est normal.
Il y a eu un moment dans votre vie qui a fait la bascule aussi, sur la prise de conscience qu'il fallait croquer la vie à pleines dents, c'est un accident de scooter.
Ah oui, oui.
Vous aviez vraiment la tête en vrac, ouais. On va pas se mentir, et ouais. C'est un chirurgien qui vous a réparé.
Ouais.
Ça a changé votre regard sur la vie.
C'est-à-dire que, en plus, je tournais à cette époque. Je devais partir au Liban, et j'ai décalé d'une semaine, je me rappelle anesthésie générale et tout. Je suis parti une semaine après avec je pouvais plus plier ma jambe, j'avais tous les tissus, enfin bon, bref, de la jambe qui était, bref, je pouvais pas plier ma jambe, et je me suis dit, bon, j'ai toujours croqué la vie à pleine dent parce que j'ai toujours, pour moi, non, mais c'est vrai que la vie est courte, donc je me suis toujours, je le pense encore maintenant, je me dis, c'est quand même génial, la vie. Voilà, quoi, ça peut paraître stupide, mais bon, c'est génial. Et oui, effectivement, je me suis dit, waouh! Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. J'avais mon Thibaut Vallès, mon associé maintenant, parce que je produis, c'est mon associé sur la production qui était là et qui est resté auprès de moi pendant toute la nuit à l'hôpital et qui a demandé à ce que je sois transféré dans un autre hôpital pour pouvoir être traité par un chirurgien esthétique au niveau du menton, parce que j'avais tout le menton qui était ouvert. Enfin, là, c'était tout le bas du visage qui avait tapé. Et je le remercie encore maintenant parce que c'est vraiment mon ami, quoi. Il est resté avec moi. Il s'est occupé de moi du début à la fin. Et c'était, voilà, c'est mon ami.
Il y a ce besoin aussi de toucher à tout.
Oui.
De vous émerveiller tout, d'apprendre. Vous êtes toujours en apprentissage. Vous avez tout fait, hein. Quand on regarde bien, vous avez fait le Morning Live. Vous avez travaillé avec Michael Young.
Oui.
Vous avez travaillé aussi en tant que beatboxer pour le Big Deal, l'émission de Vincent Lagaffe.
Ah ouais, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous êtes bien,
c'est assez fou, c'est ce besoin que vous avez de toucher à tout et après de passer à autre chose.
Ouais, alors par contre, moi j'aime bien quand ça va vite. C'est-à-dire que. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que là par exemple, la pièce de théâtre, je sais qu'à un moment, je vais arriver vers la fin, je vais avoir envie d'autre chose. Je vais avoir envie d'aller sur un plateau de cinéma. Donc oui, j'aime bien quand les choses se font et pour moi, c'est une étape, un parcours, hop, on fait maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mais quand je le fais, je le vis pleinement, quoi. Donc voilà, mais ouais, là, par exemple, on propose aussi une série où il faut chanter dedans, danser. C'est en pourparler, mais c'est un truc qui m'intéresserait bien, ouais, de reprendre un peu le chant sérieusement et de retravailler vocalement, quoi.
C'est étonnant d'ailleurs que vous n'ayez pas plus travaillé ça, d'ailleurs, le chant. C'est comme si vous aviez beaucoup de pudeur avec cette voix.
Ouais, ouais, parce que
vous avez été choriste aussi pour Nana Mouskouri. Nana, on n'a pas précisé ça, mais c'est.
Bon, ça, c'est un one-shot, mais j'étais coach de Jim Manson.
En attendant, Nana Mouskouri est très exigeante, hein.
Ah, ouais, bah, nous, vous savez, c'était pour la Star Trek, donc tout ça a été un passage assez rapide, mais quoi qu'il en soit, c'est parce que j'ai quand même été casté sur le chant pour ça. C'était assez incroyable, quoi. Alors, j'ai dit, mes parents, regarde, je suis dans la Starac, je vais choriste de Nana Mouskouri, donc ça a duré mais deux secondes. Ma mère l'a dû faire. Il est là. Et je suis rentré à la maison, j'étais mais mon Dieu, l'enfant prodigue. Et voilà, mais oui, j'ai beaucoup de respect pour les chanteurs, c'est-à-dire que moi je peux poser ma voix, je sais chanter, mais j'adore les grands chanteurs. Moi j'aime les voix vraiment. J'aime la musique nord-américaine principalement, donc j'aime vraiment quand ça chante. Moi les chansons à texte j'aime beaucoup aussi, mais quand ça susurre au micro, c'est un truc qui vite m'ennuie. J'aime bien quand ça rentre dedans.
Donc ça veut dire que cette série qui arrive, est-ce qu'elle va pas vous permettre de joindre enfin l'utile à l'agréable et de toucher du doigt ce que vous rêvez de faire depuis des années?
Bah si, ouais, peut-être que ça va me permettre de faire ça et j'aimerais bien. Puis j'ai des idées musicales, des envies qu'il faut là, faut vraiment que ce soit chouette, écrit musicalement.
Vous avez touché à tout, au dramatique, mais l'humour, la comédie, c'est vraiment votre credo. C'est vraiment ce qui vous attire le plus.
Bah c'est ce qui me. Puis alors vous savez, c'est que j'ai joué Un homme ordinaire, Dupont de Ligonnès, inspiré de la vie de Dupont de Ligonnès. J'ai fait Mensonge avec Audrey Fleurot, où je fais un violeur, enfin bref, horrible.
Quelqu'un de très inquiétant.
Très inquiétant, ouais. Voilà. Et après, mon agent me disait que. Fallait pas que je m'éparpille trop, que je donnais pas la bonne clé aux gens, donc je me suis dit bon, ok, d'accord, mais j'ai dit, en même temps c'est une chance incroyable qu'on me propose, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose aussi là-dedans. Mais donc je suis reparti un peu la comédie, purement comédie, et là ça me plaît aussi de, j'ai eu Panique au Grand Magasin que j'ai produit, que j'ai écrit, réalisé avec Tom Villa, je me dis je vais faire mes propres choses. Alors comme des fois je reçois des scénarios où je me dis j'ai pas envie de ça, je me suis dit bon au lieu de me plaindre, je vais les écrire, hein. Ça va être plus simple, hein.
Ouais, ça c'est une casquette aussi, hein, que vous avez, c'est de reprendre la main et de pouvoir décider pour vous-même.
Ah bah ouais, parce que je trouve que Voilà, quoi. Des fois, j'ai vu des choses ou j'ai lu des choses et je me suis dit, mais, ou des choses qui ont été produites où je me dis, mais on produit ça? On a accepté de produire ça? Ou des fois, tu vois les trucs, c'est le scénario, tu dis, on est sérieux, quoi. Donc, je me suis dit, bah, au lieu de me plaindre, bah, je vais le faire, puis je me taperai sur les doigts moi-même, et si je me trompe, bah, ce sera de ma faute.
Qu'est-ce qu'on peut dire de Cochon d'Inde? Parce que, moi, je suis un peu piégé par la fin. C'est très délicat pour moi de d'expliquer cette pièce pour celles et ceux qui voudraient venir voir la fin.
La fin est telle, faut pas la dire, parce que là.
Mais en tout cas, c'est très drôle, ça, c'est
sûr. Ouais, bah, c'est très drôle. Sébastien Thierry, il y avait une autre fin en 2005. Ce n'était pas la même fin que celle qu'il y aura maintenant. Pascal Le Gros, le producteur, avait envie de réactualiser cette fin, justement. Et Sébastien, il avait fait un truc un peu absurde.
À la UNESCO.
Voilà. Et Pascal Le Gros a dit, voilà, j'aimerais bien que tu me l'actualises un peu, qu'on soit un truc vraiment plus actuel. Et donc, la fin est vraiment quelque chose d'actuel que beaucoup de gens subissent. Et c'est un vrai fléau. Donc, je vous laisse venir voir la pièce. Mais en tout cas, cette fin, quand on voit comment je me fais piéger, c'est horrible.
Oui, en tout cas, réellement, c'est très drôle. Merci beaucoup, Arnaud Ducret, d'être passé dans Le Monde d'Élodie sur France Info. Cochon d'Inde sur scène au Théâtre des Nouveautés à Paris. Ce sera à partir du 22 janvier 2026. Merci beaucoup.
Merci.